Le style du Coran. Laissons de côté les problèmes des sources coraniques et étudions un peu plus le style dans lequel est écrit le Coran. Pour un non-musulman, le Coran peut sembler étrange et difficile à comprendre. Le lecteur occidental peut même se demander pourquoi les musulmans louent son inaltérable beauté quand il en trouve le style ennuyeux et répétitif. Comment expliquer le charme qu'il exerce sur le cœur et l'âme du musulman ? L'impact du Coran sur un musulman est dû autant au style qui lui est propre qu'au contenu du message proprement dit. Le Coran n'est pas un livre organisé en fonction de son contenu ou de la chronologie des événements. Les sourates du Coran sont plutôt comme un recueil de sermons d'un prêtre, d'un pasteur ou d'un rabbin, ou un ensemble de discours prononcés par un homme politique important. L'impact d'un sermon ou d'un discours résulte pour une bonne part de l'art de la répétition. Pensez à un directeur commercial qui essaie de motiver ses agents, ou à un entraîneur qui stimule l'ardeur de son équipe avant un jeu. Tous les discours qu'ils font peuvent être regroupés dans un livre et publiés. Mais la magie du verbe ne sera pas aussi forte qu'au moment où ils ont été prononcés dans le feu de l'action. Cette comparaison vaut ce qu'elle vaut. Mais on peut dire que le Coran, lui aussi, possède une force d'évocation qui s'épanouit pleinement à l'oral. Le Coran réussit à captiver son auditoire par sa musicalité incantatoire, par la poésie des images qu'il suscite et par son contenu. Il fait appel à l'imagination, aux émotions et à l'esprit. En révélant le Coran, Mohammed essaie d'entrer en relation avec son auditoire pour l'amener à passer de la parole aux actes et le transformer en adorateur de l'orateur suprême, Dieu. Les gestes du corps et l'intonation de la voix de Mohammed auront certainement joué un rôle crucial dans la transmission du message, accompagnant les changements de registre et de ton du texte. Ces gestes et ces intonations n'ont pas été préservés dans le texte écrit. Les gens sont pour la plupart habitués à un discours linéaire. Ils s'attendent à une progression chronologique ou à un enchaînement des idées selon lequel A mène à B qui mène à C. L'informatique et son cortège de liens hypertextes, accessibles en un clic, offrent aujourd'hui la possibilité de lire un texte sans suivre une progression linéaire. Le Coran, de par sa nature non linéaire, est difficilement accessible à un non-musulman qui n'a pas grandi en entendant les sonorités du Coran dès son plus jeune âge. On pourrait comparer le Coran à un kaléidoscope d'images dans lequel les différents éléments se reproduisent continuellement en se combinant chaque fois différemment. Le Coran donne rarement l'intégralité de l'histoire dans un seul passage. Moïse est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Mais pour comprendre pourquoi Moïse est mentionné à tel endroit, encore faut-il déjà connaître un peu l'histoire de Moïse. La langue du Coran n'est pas l'arabe de tous les jours que parlait Mohammed. Certains pensent que la langue du Coran est dérivée d'un style de langue littéraire élevé, utilisé et compris à travers toute l'Arabie du temps du prophète. Tout comme la langue de Ronsard et l'Académie française ont contribué à façonner le français d'aujourd'hui, l'arabe du Coran a exercé une influence décisive sur l'évolution de la langue arabe. La langue du Coran ne correspond à aucun genre littéraire précis, ni prose, ni poésie classique. Si certains contemporains de Mohammed se sont demandé s'il était poète, devin, fou ou magicien, cela montre bien qu'il ne savait pas dans quelle catégorie classer son style, sa parole. La langue du Coran est une forme de prose rimée et rythmée. À partir d'une traduction, sans même lire le texte, on peut facilement se rendre compte qu'il est composé comme de la poésie. Même si les vers n'ont pas un mètre fixe, ni un nombre réglé de syllabes, il saute aux yeux que la structure est plutôt du registre de la poésie. La langue du Coran fait une large place à la rime, tous les vers d'un même couplet se terminant par le même son. Conseil. Même si vous ne comprenez pas l'arabe, si vous voulez sentir l'effet que peuvent produire les sonorités du Coran sur les oreilles musulmanes, je vous conseille d'écouter vous aussi la psalmodie de quelques sourates. L'idéal serait même d'écouter la psalmodie tout en ayant sous les yeux une translittération en français du texte arabe. Vous pouvez vous procurer le Coran tout entier, soit en cassette, soit en CD, dans de nombreuses librairies dites islamiques des grandes villes françaises. À Paris, vous pouvez en trouver de nombreuses dans le 5e arrondissement, et plus particulièrement dans les rues situées entre l'Institut du Monde Arabe et la Grande Mosquée de Paris.
Pour aller plus loin, la datation des sourates. Même si les sourates ne sont pas rangées chronologiquement, peut-on tout de même les dater ? Beaucoup de traditions musulmanes parlent de l'occasion de la révélation de passages spécifiques du Coran. Malheureusement, ces traditions sont parfois en désaccord entre elles et généralement les chercheurs occidentaux pensent qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt pour dater les sourates. Il est indéniable que tous les chercheurs, musulmans et non musulmans, sont d'accord pour reconnaître que sur la base du contenu et du style, on peut déterminer si les sourates appartiennent à la période mécoise, 610-622, ou à la période médinoise, 622-632, de la vie de Mohammed. Chapitre 6. Une seule sourate peut contenir plusieurs révélations. Et il arrive que certaines sourates mécoises contiennent une partie qui provienne d'une révélation de la période médinoise. Quels sont donc les messages et les critères stylistiques qui permettent de distinguer les sourates mécoises des sourates médinoises? Les sourates les plus courtes, les plus poétiques et les plus lyriques appartiennent principalement à la période de la Mecque. Celles qui sont plus longues, plus prosaïques et plus détaillées appartiennent à la période de Médine. Dans la première période, Mohammed était principalement un prédicateur, s'adressant à une assistance en partie sceptique. À Médine, Mohammed était un homme d'État et un législateur, qui s'adressait à une communauté composée principalement de musulmans. Il lui revenait de régler des problèmes d'ordre pratique pour structurer cette nouvelle communauté. Dans sa traduction du Coran, 1947-1950, l'arabisant très connu Régis Blacher a reconstitué l'ordre chronologique des sourates.
La tradition rapporte que Mohammed était illettré et inculte. Ainsi, le Coran est un miracle que Mohammed ne peut pas avoir produit tout seul. En plusieurs endroits du Coran, Mohammed défie ceux qui ont douté de son inspiration de produire 10 sourates, 11-13, ou même une sourate, 10-38, comparable à celle du Coran. Aucun n'y est parvenu. C'est à partir de ce constat que s'est développé le concept d'Uljaz, l'inimitabilité du Coran, signifiant qu'il ne peut pas être imité. Plus tard, les penseurs musulmans, tels les théologiens Al-Bakilani et Al-Jurjani au XIe siècle, ont essayé de définir ce qui constituait le dogme d'Uljaz, de l'inimitabilité coranique. Ils ont souligné le choix et l'agencement des mots, nazm. Le fait de changer un mot ou de changer l'agencement des mots modifie tout le sens du texte. Ce dogme de l'inimitabilité coranique a permis des avancées considérables pour rendre compte de l'efficacité rhétorique du Coran sur les esprits et les cœurs musulmans en tout temps et en tout lieu. Les chercheurs modernes, musulmans et non musulmans, commencent à utiliser des techniques modernes d'analyse littéraire pour faire avancer la compréhension du Coran et améliorer la qualité des traductions. Certains auteurs musulmans du XXe siècle, tels Saïd Qutb, 1906-1963, ont essayé de véhiculer un islam qui s'adresse de façon plus convaincante au monde moderne, même si aujourd'hui tous ces penseurs sont suspectés de torts qui n'en sont pas. Outre sa valeur artistique, Saïd Qutb met l'accent sur la validité des prophéties du Coran, sur sa législation avisée qui est aujourd'hui tout aussi valide qu'à l'époque de Mohammed, et sur son aptitude à anticiper sur les connaissances scientifiques modernes relatives à l'homme et à l'univers. En dehors des aspects structurels de la langue du Coran, il est également intéressant de regarder les éléments qui composent les diverses sourates. Neil Robinson, dans son livre intitulé « Découverte du Coran » paru en 1977 à la Trinity Press International, parle de six registres ou types de discours qui composent les différentes sourates. Les passages dirigés contre les adversaires païens de la Mecque et plus tard contre les hypocrites de Médine. Les signes qui attestent par exemple de la puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Les révélations faites à Mohammed, y compris son appel. Les signes qui annoncent la fin du monde et le jugement dernier. Les éléments qui servent à établir la vérité du message et de son messager. Les récits, tels ceux des premiers prophètes, qui ont prévenu leur peuple de la destruction imminente qui les attend s'ils ne se convertissaient pas. Selon Robinson, les six types de registres différents peuvent se retrouver et se combiner à l'intérieur d'une même sourate. Ce qui ressort à la première lecture comme étant une série d'unités indépendantes peut dès lors être compris comme un ensemble cohérent. Il est bien évident que la grille de lecture de Robinson, d'après les six registres différents, n'est pas la seule manière d'analyser les éléments répétitifs. On pourrait, par exemple, en ajouter d'autres. Des sermons, des passages à caractère juridique et des paraboles. D'autres chercheurs se sont essayés à classer par thème les domaines abordés par le Coran. Islahi, un exégète du Coran qui vit en Asie du Sud, répartit le contenu du Coran en sept catégories. Chacune traitant d'un thème en particulier. La loi, la religion d'Abraham, englobant le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois religions se réclament d'Abraham, voir chapitre 16, le combat contre la vérité et le mensonge, la preuve que Mohammed est bien le messager de Dieu, l'unicité de Dieu, qui découle du monothéisme et considère que Dieu est unique et n'a eu ni enfant, ni parent, ni conjoint. Le jugement, les admonestations aux incroyants. Cette classification par thème peut être utile à un lecteur non musulman, mais ne correspond pas à la structure du Coran. Si l'on regarde des sommets enneigés depuis l'est, on ne verra pas la même chose que si on les regarde depuis le sud. On découvre une autre perspective, un autre angle de vue. En combinant ces points de vue différents, on arrive à se faire une idée plus complète, plus riche de la montagne. En arabe, ce procédé stylistique qui consiste à changer de point de vue en changeant de pronom personnel, de genre, de nombre ou le temps d'un verbe, par exemple, s'appelle l'iltifat. Il est souvent utilisé dans le Coran pour provoquer des effets rhétoriques particuliers. Le « nous » de majesté s'applique à Dieu et glorifie sa transcendance. Le « je » donne une image plus personnelle de Dieu. En arabe comme en hébreu, la notion du temps est rendue sous deux aspects, l'accompli et l'inaccompli, plutôt que sous la forme du passé et du futur, comme en français. Dans le Coran, on rencontre fréquemment les changements de temps au milieu d'un passage. Le sujet grammatical navigue également entre le « moi » et le « nous », voire même « lui ». Et divers noms tels que « le Seigneur », tout cela dans la même unité de texte. Les musulmans considèrent ces divers décalages comme une manifestation de la richesse du Coran.